Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette apérophonie. Je suis en compagnie du chercheur Grégoire Chelkov, enseignant chercheur au laboratoire Cresson à l'école d'architecture de Grenoble, et aussi en compagnie de Malika. Bonjour, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Allô ?
Oui, bonjour.
Écoutez, merci Louis de vous donner la parole.
Merci à vous de nous avoir invités.
Alors, et ben, du coup, on vous a invité parce que cette année, comme depuis 8 ans maintenant, vous donnez une école d'hiver dans le cadre de la semaine du son. Mais tout d'abord, je voudrais parler du laboratoire Cresson, qui a eu 40 ans cette année. Mmh. Et spécialisé dans la recherche en environnement urbain et espace sonore. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Grégoire, s'il vous plaît ?
Oui, volontiers. Alors, oui, le Cresson, ça veut dire, précisément, ça veut dire c'est les centres de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Bon. Et en fait, c'est un laboratoire qui, effectivement, a 40 ans. Il est implanté à l'école d'architecture de Grenoble. Il a été fondé par des gens, à l'époque j'étais étudiant, vous voyez, avec d'autres, et on a été un petit peu attiré par cette idée d'écouter un petit peu mieux les espaces, la ville, l'architecture, enfin les espaces qu'on fréquente tous les jours, alors que la plupart du temps on les regarde, on les voit, et on écoute assez peu. Alors, comme c'était à la fin des années 70 que ce laboratoire a été créé à l'école d'architecture, alors il y avait un philosophe urbaniste, Jean-François Goyard, et puis un acousticien, Jean-Jacques Delettré, voilà, qui enseignait, mais qui était aussi des chercheurs et qui avait proposé ce travail. Et c'est devenu donc un laboratoire qui est très vivant, puisqu'il vit encore 40 ans plus tard. Et pourquoi, alors, comme je le disais au début, écouter les sons de la vie de tous les jours, hein, en dehors de la musique, on a des sons qui nous entourent, et ce qui nous intéressait, c'était savoir quelle était la qualité des espaces sonores qui nous entourent, et comment aussi introduire cette dimension sonore dès le départ, quand on conçoit les lieux, quand on travaille sur des quartiers, quand on travaille sur l'habitat, quand on travaille sur des salles qui ne sont pas destinées spécialement à la musique, mais des espaces de tous les jours. Voilà. Donc, à partir de là, l'équipe était formée en petit nombre, et puis c'est agrandi au fil du temps, en incorporant à la fois des gens qui sont intéressés par le son. Alors, c'est vrai... autour de la prise de son, de l'acoustique, de la musique aussi, bien sûr, mais aussi des architectes, des urbanistes, etc., qui s'intéressent à ce que devient la ville sonore. Peut-être pour situer un peu dans le contexte, si je peux continuer, on peut dire aussi que, vous voyez, à la fin des années 70, ces bonnes années 70, eh bien, il y a quelqu'un au Canada qui s'appelle Murray Schafer et qui parle de paysage sonore. Il appelle ça, en anglais, le soundscape. Mm-hmm. Hein? Alors, littéralement, ça veut dire paysage sonore. Donc, il y avait aussi ailleurs qu'ici, à Grenoble, donc au Canada, et donc dans d'autres pays, un intérêt pour, finalement, ce qu'il a appelé, lui, les paysages sonores. Voilà. Alors, c'est peut-être pas seulement des paysages sonores, mais disons, voilà, c'est essayons de parler du son qui nous entoure sans toujours le cibler ou en parler en termes de gêne, de nuisance, parce que souvent, vous voyez, dans les, quand on parle de l'environnement sonore urbain ou dans l'habitat, on parle de la gêne, de la nuisance, mais jamais des qualités, finalement, qui constituent cet environnement.
Vous avez d'ailleurs employé le mot « qualité ». Et c'est vrai que l'urbain, on peut souvent l'assimiler à des nuisances sonores
voilà.
De plus en plus fortes, bon, avec aussi les nouvelles technologies. Mais est-ce que je me demandais si, en fait, vous étiez déjà à l'avant-garde dans cette idée d'explorer le sonore dans le urbain?
Bah, comme je le disais à l'instant, je crois qu'il y a eu un moment dans ces années-là d'intérêt renouvelé pour le sonore. L'avant-garde, elle est peut-être du côté de notre travail sur l'espace urbain, plus particulièrement et sur l'habitat, du point de vue justement de vouloir introduire très en amont des réflexions la dimension sonore. Parce que précisément, elle est toujours, à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, toujours, corriger quand tout est fait. Et quand tout est fait, c'est peut-être un peu trop tard. Donc, comment anticiper et prévoir, par exemple, comment les usages, les matérialités, les matériaux, comment les différentes sources sonores peuvent coexister. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de normaliser ou de dire ce qui est bon et mauvais, mais il s'agit plutôt de trouver un certain équilibre entre toutes les modes d'existence possibles et qui s'expriment par le son. Bon, voilà. Alors, avant-garde peut-être parce que, aussi, à l'époque, on ne disposait pas beaucoup d'outils pour travailler sur les aspects sonores. Je vous parlais tout à l'heure de la notion de paysage sonore, mais elle est très globale. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. On ne va pas maîtriser un paysage sonore, peut-être pas. Et puis, il y avait d'autres outils, je veux dire, de notions, si vous voulez, qui permettent de parler du sonore, d'évoquer le sonore autrement qu'en termes de gêne ou de nuisance. Hein, je parle bien de ça. Et d'autres, des musiciens, comme Pierre Schaeffer, par exemple, parlaient d'objets sonores. C'est-à-dire vraiment de la nature même des sons produits par sa propre, on va dire, matérialité presque. Hein, c'est-à-dire, on peut parler du son de votre cafetière. Il y a des designers sonores aujourd'hui qui travaillent sur le design sonore des objets.
Bon,
il y avait un colloque récemment à Paris, à l'IRCAM. Je ne sais pas si vous connaissez l'IRCAM.
Ouais. Enfin,
c'est l'Institut de recherche sur les musiques contemporaine, à côté de Beaubourg, là, vous savez, et qui s'appelait donc les Sound Design Days. Et vous avez des gens qui travaillent, c'est connu, sur les objets, sur les ambiances sonores au cinéma, dans les bandes son des films, enfin sur tout un tas de choses qui constituent l'univers dans lequel finalement nous baignons. Et bon, nous, du côté du Cresson, on a travaillé sur ce qu'on appelle les effets sonores. Alors, les effets sonores, c'était, vous voyez, le paysage sonore, l'objet sonore, et puis les effets sonores, en fait, c'était l'idée que tout le monde connaît, par exemple, ce qui peut se passer lorsqu'il y a des effets de réverbération qui peuvent être assez fascinants. Hein. Vous rentrez dans des cathédrales ou sous la pyramide du Louvre, vous avez des effets de réverbération extrêmement importants et ça crée des atmosphères particulières. Ou alors, au contraire, vous montez dans votre cage d'escalier. Et de la même manière, mais pas du tout dans le même contexte, cet effet va être extrêmement marquant et va déterminer un petit peu la manière dont je suis dans cet escalier et autant que ce que j'entends des autres. Donc les effets sonores étaient un gros travail pendant un certain nombre d'années pour les définir. Et c'est comme ça qu'un ouvrage a été fait qui s'appelle « Le répertoire des effets sonores en milieu urbain ».
Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, les techniques ont évolué grâce à la recherche, notamment aussi à l'écoute. Est-ce que vous restez... quelle place vous avez au sein de l'architecture en termes de sonore? Est-ce que c'est quelque chose qui reste encore avant-gardiste ou est-ce que ça prend de plus en plus d'importance? Ça commence à être très connu.
Alors, c'est toujours difficile, le son, parce que, vous voyez, c'est quelque chose qui se... qui se voient moins que les grands, les grands objets visuels. Hein, c'est ouais. quelque chose qui est moins, comment dire...
Surtout qu'en architecture, c'est très visuel.
Et voilà.
Plans,
oui, tout à fait. C'est d'abord l'image. C'est d'abord ce qui va représenter telle ou telle action d'aménagement, alors du point de vue politique aussi. Hein, voilà. Mais évidemment, la dimension sonore est beaucoup plus difficile à saisir. Déjà, c'est... Voilà. Alors, est-ce qu'on a progressé? Bon, c'est vrai que avec, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec bon, le numérique est effectivement quelque chose qui a rendu, par exemple, le son beaucoup plus malléable, beaucoup plus en termes d'enregistrement, de travail sur des découpages, etc., qui a rendu le travail sur le son plus facile. Et puis, un travail plus récent avec un jeune architecte, doctorant, Théo Marchal, qui travaille avec moi et qui soutiendra sa thèse bientôt, un travail qu'on a appelé Esquisson. Esquisson, justement, qui est une volonté d'introduire dès les premières esquisses des éléments sonores, auditifs, pour essayer de faire interagir ce qui va se passer dans la morphologie du lieu et ce que ça peut produire du point de vue de ce qu'on va entendre. Alors c'est très pédagogique, hein, c'est pas du tout une simulation, parce que ça coûte assez cher de faire ça, mais ça permet au moins pédagogiquement aux jeunes auxquels on transmet ces choses-là, de faire avec ça, quoi. D'essayer d'introduire le plus en amont possible le fait, par exemple, de si je déplace telle ou telle masse bâtie, si j'introduis telle ou telle... fonctionnalité ou manière de faire une cour d'école, je sais pas, ou des circulations, etc. Ben, qu'est-ce que ça produit et comment ça va se propager, comment ça va finalement aussi donner une couleur, une ambiance au lieu. Voilà. Donc ça, voilà, ce sont des travaux qui sont très actuels en ce moment, hein, voilà, qui sont des manières aussi de, voilà, de faciliter, hein, l'accès à ces dimensions-là, parce qu'elles ne sont pas faciles. C'est vrai que, d'une part, il y a ce jugement de valeur, souvent, derrière tout ce qui est sonore, à travers la nuisance et la gêne, et que, d'autre part, les moyens de les représenter, ou de les toucher du doigt, si vous voulez, sont assez peu faciles. Mais là, elles ont été quand même facilitées grâce à ces outils-là.
Et alors, ces esquissons, ce seraient des sortes de fragments qui sont significatifs, qui marque l'identité d'un lieu ou d'une...
Oui, on peut dire ça, oui, qui marquerait alors le terme d'identité, bon, ouais, disons un mode d'existence un peu de dans le temps, d'un par exemple, on pourrait se dire tiens, je suis au quatrième étage de tel endroit et voilà comment ça paraîtrait si ce que j'entendrais. Voilà, si je suis au balcon, s'il y a quelque chose en bas, etc. Si j'entends très loin ou très près, voilà. Ça donne un peu l'échelle d'écoute, si vous voulez, dans l'espace. Alors, c'est encore une fois, c'est pas une simulation au sens où les acousticiens la font, c'est un travail d'esquisse. Et l'esquisse, si vous voulez, les choses sont encore floues, mais elles commencent à se préciser. Alors voilà ce qu'on essaye de faire, notamment avec le son.
Et alors, donc, vous intégrez la Semaine nationale du son.
Oui, internationale bientôt.
Internationale bientôt, oui, j'ai vu que ça allait appartenir à l'UNESCO.
Oui, effectivement, depuis, alors je ne sais plus, c'est un an ou deux, l'UNESCO a reconnu, à travers un travail de la Semaine nationale du son qui s'est passé en France depuis, je crois, 17 ans. L'UNESCO, certains pays, à l'initiative de la France, a mis la dimension sonore dans une des, disons, de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à porter attention à cela dans les cultures et dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a Le problème n'est pas seulement français, mais il y a des différentes façons d'être, d'exister dans le son qui méritent qu'on peut-être on y fasse un peu plus attention, et notamment effectivement avec le développement d'une certaine, on va dire, mondialisation, uniformisation, tout ce qu'on veut, qui fait que les choses parfois deviennent un petit peu pareil partout. Voilà. Donc cette dimension culturelle du son. Elle est effectivement, du coup, l'UNESCO a l'idée de la semaine du son, c'est-à-dire une semaine où on s'intéresse à la dimension sonore. Alors, c'est intéressant parce que vous savez, il y a plein d'acteurs très différents. Ça va de la médecine, l'architecture, l'art, les aides auditives, je sais pas, la musique évidemment, mais pas seulement. Et donc, ça brasse beaucoup de disciplines différentes. Mais autour de la dimension sonore de la vie, quoi, pour dire les choses. Et cette semaine du son national, elle s'est exportée. Alors, elle se passe en Belgique, elle se passe dans des pays d'Amérique latine. Il y a un moment comme ça où finalement il y a des actions, des concerts, des différentes choses. Et c'est nous, ce que nous faisons, c'est notre ce qu'on appelle la Winter School, ou l'école d'hiver sur le son, à l'école d'archi de Grenoble.
Ah, eh ben écoutez, je vous propose qu'on en parle après la pause musicale, mais je vais quand même annoncer les dates de la semaine du son au niveau national. En tout cas, c'est du 20 janvier au 2 février en France. Et donc pour ce qui est de votre Winter School, ce sera du 27 au 31 janvier, donc 5 jours sur de la théorie et de la pratique, et la thématique ce sera pièce d'écoute, mais ce sera juste après donc Angel Olsen et le titre Spring. Merci beaucoup et à tout de suite Grégoire.
À tout de suite.
Anne Olsen sur Radio Campus Grenoble 90.8 et nous sommes toujours en compagnie de Grégoire Chelkov du laboratoire Cresson qui va nous parler donc de la Winter School qui nous organise pour la 8e année consécutive qui portera donc sur le thème pièce d'écoute. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Grégoire, comment est-ce que vous avez eu l'envie au laboratoire Cresson de créer des workshops pendant une semaine sur le son?
Alors oui, ça a été une bonne question là. On a remarqué d'abord que quand on travaille sur 5 jours de manière intensive et sur un sujet concentré, ça aide à avancer plus vite que lorsqu'on se disperse dans le temps. Non, mais ça, c'est pour la... oui. L'atelier au sens intensif, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe et qui fédère beaucoup de gens et beaucoup d'actions pour... voilà. Alors, c'est la 8e édition, je crois, celle-ci, pour nous, enfin, qu'au Cresson, on organise cette insertion là dans la semaine du son, parce qu'on se disait, on ne peut pas ne pas participer à la semaine nationale du son. Et donc, chaque année, il y a une thématique. Et donc, c'était organisé de manière à travers notamment l'initiation, la prise de son, montage, et puis avec des conférences, des cours, si vous voulez, qui expliquent un petit peu les acquis, quoi, avec les différents intervenants qui travaillent au sein du laboratoire Cresson.
Et à partir de ce que ça s'adresse, ces formations qui sont condensées sur 5 jours.
Oups, pardon, je ne vous ai pas entendu.
Ouais, je demandais à qui est-ce que ça s'adresse donc cette formation.
Alors là, c'est très large parce que on s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à cette dimension sonore. Et alors, ce qui est marrant, c'est ça, c'est que ça peut être aussi bien étudiants, enseignants, chercheurs, décideurs, architectes ou pas, mais ça va aussi toucher des publics, étudiants ou dans le domaine du design. Même des écoles d'art, hein, des gens qui s'intéressent à la radio aussi, oui, des gens qui sont dans des structures d'études, alors souvent au niveau de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des choses comme ça. Et donc, c'est aussi cette pluridisciplinarité-là qui est intéressante. Autour d'un même objet comme le son, disons autour d'un même domaine d'intérêt, il y ait ces différentes façons de se l'approprier et d'en faire quelque chose. Voilà. Alors cette année, plus particulièrement, ce que je voulais faire pour cette édition-là, c'est vrai, c'était changer un petit peu le format et aller plus vers l'expérimentation fabriquer quelque chose qui va interagir avec le son. Voilà. Alors donc là, c'est très peut-être la dimension un peu architecturale, constructive, mais pas seulement, c'est aussi artistique, puisque cette année, en fait, nous sommes... donc j'ai proposé cette idée des pièces d'écoute, expérimentant exposition et interaction sensorielle, avec Théo Marshall, dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi un jeune architecte, et puis aussi avec... Éléonore Bach, qui elle est plasticienne, artiste sonore et qui vient de l'école d'art de Lorraine. Et voilà. Et puis en plus, on a réussi à inviter quelqu'un qui viendra de Montréal, qui fera une conférence particulièrement autour de l'anthropologie des sens, parce que le son, c'est un de nos sens. Alors là, il est plus particulièrement mis en avant. Qui fera une conférence qui sera annoncée et qui est destinée à tous ceux qui s'intéressent plus largement aux cultures sensibles, au sens dans les cultures et aussi dans les différentes cultures, pour explorer cela et trouver des voies de compréhension comme d'action.
Donc, j'ai oublié de le préciser, on l'a oublié, mais c'est vrai que votre laboratoire, il repose beaucoup sur les transdisciplinarités et c'est à la croisée de sciences dures, sciences humaines, sciences sociales.
Oui, ça c'était les principes du fondement. De toute façon, on l'oublie trop souvent, mais c'est un des rares endroits en architecture où ce croisement il existe de fait. depuis la réforme de 68 et où il a été maintenu, c'est-à-dire que c'est une formation pluridisciplinaire. Dans la formation à l'architecture, vous avez les sciences humaines, l'art, les sciences plus exactes, l'histoire, etc. Donc c'est une volonté déjà d'agréger, de faire travailler autour de la question du bâtir l'ensemble des regards, des analyses, mais aussi des apports qui peuvent être faits par d'autres disciplines. Évidemment, on a du coup profité de cet entrelacs déjà existant pour l'améliorer et le proroger, le continuer dans le laboratoire et autour particulièrement des dimensions sonores, mais aussi maintenant autour de ce qu'on appelle les ambiances, c'est-à-dire des choses encore plus fines, mais qui consistent justement à se rendre compte que voilà, nous avons affaire à des ambiances assez différentes dans notre vie, dans nos cultures, et que voilà, il faut pouvoir mieux le comprendre et mieux s'en saisir. Donc voilà. Donc effectivement, cette dimension, bah oui, interdisciplinaire, est très prégnante, très présente, avec chacun évidemment avec sa l'intentionnalité derrière ce qu'il veut en faire, évidemment, et en même temps avec la complémentarité que ça peut apporter.
Et alors, avec la pièce d'écoute, comment est-ce que on peut imaginer eh bien, le déroulement de cette semaine où on va construire collectivement donc, une installation phonique ?
Oui, c'est un peu ça. Alors, en fait, la dimension expérimentale, c'est-à-dire fabriquer quelque chose, est assez une des particularités qui a été développée à l'école d'architecture de Grenoble. Il faut bien le dire, depuis un certain nombre d'années. Et donc, c'est quelque chose qui nous parle aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire, de fabriquer quelque chose qui répond à une intention et donc qui n'est pas seulement que faite par des mots, mais aussi par quelque chose que l'on peut expérimenter par le corps en mouvement. C'est important, parce que c'est finalement c'est ce à quoi nous avons affaire sans cesse. Et donc, cette pièce d'écoute, alors j'ai trouvé ce mot pièce d'écoute en me disant, ben, en fait, c'est à la fois la pièce où on écoute, mais c'est aussi, vous savez, parfois, on dit une pièce de musique. Hein, c'est, voilà, c'est un peu un jeu de mots sur la pièce qu'on entend et la pièce dans laquelle on est. Là, l'idée, c'est de, voilà, avec des matériaux très simples et avec aussi des dispositifs électroacoustiques, de construire dans l'espace d'exposition qui sera situé à l'école d'architecture. Et j'espère que les gens pourront venir. Hein. C'est ouvert au public, évidemment, quand on finira le vendredi 31 janvier. Une sorte d'espace, alors ça va être simple, hein, mais en même temps, qui va tenter de restituer des types d'expériences sonores en profitant à la fois des éléments matériels qui constituent l'espace, des parois, des seuils, des absorbants, des éléments différents en termes tactiles, etc. Et aussi avec l'introduction de sons qu'on a enregistrés ou d'éléments sonores qui vont finalement proposer des types d'écoutes différentes. Alors l'idée, c'est de se dire, bah, par exemple, je rentrerai dans cet espace, et puis voilà, je m'approche, je passe une porte, je trouve quelque chose, j'entends quelque chose, j'entends autre chose, etc. Je me penche comme à une fenêtre, par exemple, et j'entends, par exemple, du 8e étage. Mais en fait, tout ça est un petit peu, pas simulé au sens numérique, informatique, non, pas du tout. C'est créé, c'est le cas de le dire, de toute pièce, dans cette installation. Alors, vous voyez, on est entre une sorte de, c'est presque une métaphore à la fois architecturale, mais aussi dans ce qui peut se passer aussi dans le domaine artistique. Hein. On voit de plus en plus dans le domaine-là des propositions qui travaillent avec des haut-parleurs, avec la dimension spatiale du son. C'est aussi ça qui nous intéresse, c'est-à-dire cette dimension spatiale. Elle est importante parce que précisément, nous sommes en mouvement, passer derrière quelque chose, se pencher à tel endroit, être peut-être dans la lumière ténue ou dans un milieu plus confiné, on n'entend pas de la même manière. Vous voyez, c'est rendre compte un petit peu de ces différentes expériences-là. Alors, dans l'idée que j'avais au départ, c'était presque de se dire, bah oui, il y a trois pièces. Vous voyez, trois pièces.
Cette idée de départ ne fonctionne, enfin, ne sera pas réalisée, si, c'est possible.
Si, oui, c'est l'idée de départ. Je dis, non, parce que je voulais préciser simplement, après je me disais, bon, oui, c'est comme si on faisait, vous voyez, une espèce de d'habitation imaginaire, quoi. Voilà. Et oui, quelque part, c'est un peu ça. Et, mais qui sera contextualisé par différents éléments sonores. Alors aussi bien, alors vous savez que le son, on peut le ressentir de manière aérienne, mais on peut aussi le sentir par des voies solidiennes. Donc voilà, on va tester un petit peu des choses comme ça.
Alors du coup, en fait, ce sera les matériaux qui vont composer cette installation qui vont recréer des effets différents, des effets sonores, et donc des sensations différentes.
Oui, les matériaux vont être pour quelque chose, mais ils vont être aussi provoqués par une installation, à peu près 8 à 12 haut-parleurs, qui vont en fait, en dirigeant et en filtrant certaines fréquences ou en orientant d'une certaine façon, vont recréer des sensations auditives avec ces dispositifs matérialisés-là. Voilà, vous voyez, c'est à la fois, c'est une exploration, hein, c'est pas seulement, comme toute expérimentation, vous savez, on essaye des choses, et puis on peut en découvrir d'autres, ça peut arriver, et surtout, on apprend comme ça à mieux faire sentir, finalement, ces éléments-là, qu'on sent dans le quotidien, mais auxquels on fait pas toujours attention. Voilà.
Donc ça, ce sera pour fin janvier, du
fin janvier, le 31. Ouais.
Voilà. Et par contre, on peut s'inscrire jusqu'au 5 janvier.
Oui, tout à fait. Ouais. Les inscriptions sont ouvertes là. Donc c'est marrant déjà de voir les profils qui sont inscrits.
Très diversifié, j'imagine.
Ouais. Et donc c'est ouvert, oui, jusqu'au 5-10 janvier. Donc pour simplement pour cela, il faut envoyer aller sur le site. Alors je ne connais plus par cœur.
J'ai le site. C'est le site donc ehas.hypothèse.org. Ouais. Sinon vous tapez laboratoire Cresson sur un moteur de recherche. Mais j'ai aussi l'adresse donc à laquelle vous pouvez vous inscrire. C'est cressonwinterschool tout attaché @grenoble.archi.fr. Et donc, il y a des tarifs, c'est 300 euros pour les professionnels, 100 euros en tarif réduit, et c'est gratuit pour les étudiants, doctorants, demandeurs d'emploi. Enfin, toutes les modalités sont écrites sur le site internet.
Oui.
Et petite dernière question aussi, je voulais vous demander, en termes de recherche, quelles étaient les actualités en ce moment au laboratoire Cresson et quels étaient, selon vous, les enjeux qui se profilaient dans les années qui viennent, sachant qu'en plus, on fait de plus en plus intervenir sur le développement durable en ce moment. Donc, quels seront les prochains enjeux en termes de dimension sonore?
Alors, il y a évidemment, oui, comme je viens de le dire, il y a cet environnement qui va si mal, climatique. On dit qu'on veut être plus durable, mais on génère en même temps d'autres sources sonores. Il faut savoir aussi que les paysages sonores, ils se modifient avec la disparition de certaines choses, l'apparition d'autres choses. Donc voilà, ça, il y a des gens qui s'intéressent à ça. C'est aussi une empreinte de ce que nous faisons sur la planète. Il est quand même... moi, j'emploie même le terme de phonocène, parce qu'il faut quand même savoir que le niveau sonore planétaire, il croît, il se diffuse partout aussi. En fait, difficile de trouver un espace où il ne passe pas un avion. Hein. Donc, voilà, c'est l'emprise qu'on a sur le monde avec le développement, etc., est aussi sonore. Quoi. Voilà. Alors, c'est pas le... sans doute le mot, comment dire, le mal, le mal le plus redoutable, encore que on peut se dire, bon, bah oui, effectivement, la disparition de certaines espèces, d'oiseaux, etc., etc., ça change quand même l'environnement. Après, il y a d'autres dimensions bien plus importante parce que, en fait, l'emploi des matériaux, de certains types de matériaux, etc., qui ont aussi un enjeu climatique, peut avoir un enjeu sur le son. Si on réfléchit un petit peu, il peut y avoir des enjeux du côté de la. Des sols, de la végétalisation, etc., qui sont pas négligeables en termes aussi de la facture des environnements, aussi bien climatiques que sonores. Après, évidemment, il y a bien d'autres enjeux qui peuvent, alors qu'on intitule plus autour des ambiances, sur la mémoire, sur la mémoire des lieux, sur les héritages aussi, et sur les cultures, donc qui s'expriment à travers une matière sensible finalement. D'autres enjeux sont pour nous toujours très importants, c'est celui des méthodes de travail, des types de représentation, des types d'écriture et d'expression qui permettent d'introduire mieux ces dimensions sensibles. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, quand même, en Occident et dans toute la pensée, on va dire, basée sur le signe, sur la signification, etc., on a peut-être eu tendance à négliger des aspects plus directs, on va dire, de perception, et même si la discussion peut être assez compliquée là-dessus, toujours est-il que c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais du corps en mouvement, de choses qui sont tout à fait senti au sens quotidien, il n'est pas négligeable de porter attention un petit peu à la manière dont on transforme tout ça dans notre monde moderne. Et sans jugement de valeur, d'essayer aussi de mieux introduire une pensée qui part du... je ne sais pas pourquoi on dit le bas, mais qui est un petit peu moins ascendante. Descendante et qui permet de faire remonter justement des éléments qui sont importants mais qu'on néglige parfois au nom d'idées qui les surplomberaient. Donc voilà, c'est peut-être un peu ambitieux, mais il y a certainement des enjeux de recherche. Alors plus globalement, parce que le son, ça fait partie de l'environnement sensible, de notre environnement sensible, qui est le fait que nous utilisons pas seulement l'œil, la vue, mais bien tous les autres sens pour être, faire partie du monde, communiquer, etc. Et donc, c'est aussi cette dimension-là qui est importante au moment où la technologie, effectivement, on parle de robotique, on parle de beaucoup de choses numériques, etc., où évidemment, ça met en tension des univers qui se côtoient. Il ne s'agit pas de dire, pour revenir à je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est dire comment ça se passe du coup quand on passe dans des environnements disons plus virtuels où on serait capable de reproduire certaines situations réelles. Je ne sais pas. Voilà, vous voyez, il y a plein de questions aussi bien au niveau de l'évolution des technologies, de l'évolution de notre rapport avec l'environnement, la terre, etc., et puis de notre relation avec les cultures différenciées qui habitent le monde. Voilà.
Et tout ça sans jugement de valeur, évidemment, puisque la dimension sonore est quand même très subjective, finalement, c'est ça qui est aussi la difficulté, quand même.
Oui, alors on dit toujours, oui, dès qu'on parle des sens, on dit c'est subjectif, donc c'est impossible d'en parler. Alors, oui et non, c'est intersubjectif, en fait, parce sinon on ne pourrait pas se parler. Donc, il y a de l'échange à travers tous ces éléments-là. Et donc, bien sûr, si on n'arrive pas à faire discuter les subjectifs, je ne sais pas très bien comment on fait, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir au moins en débattre. C'est pouvoir au moins ne pas, justement, aller plutôt loin de la manipulation et plus du côté de la discussion. Et c'est vrai qu'il y a aussi des enjeux je n'ai pas évoqué sur la manipulation des ambiances, qu'elles soient sonores ou autres, pour un certain monde qui peut être, la marchandisation générale, qui peut être un petit peu manipulateur. Hein. On pourrait dire, attention, oui, on peut fabriquer des mondes idéaux, mais vous voyez bien que là, les dimensions sensibles sont très, très, très importantes aussi. Donc voilà, tout ça, ce sont des enjeux. Il ne s'agit pas de rejeter ou de dire les nouvelles technologies, ceci, cela, mais de le faire avec les yeux ouverts et les oreilles aussi.
Parce que ça, c'est des discours que vous entendez de plus en plus avec l'apparition croissante du numérique, des espèces de manipulations sonores, comme vous l'avez dit.
Non, disons qu'il y a effectivement, on peut se dire qu'il y a une dimension toujours dans la fabrication de nos environnements, notamment on peut dire un certain marketing, des choses qui visent quand même un certain but. Donc, comment reprendre la main, être un petit peu conscient de ces enjeux-là. Mais je pense qu'il y a en même temps des contre-feux. Hein. Il ne faut pas être non plus, pessimiste. Non, ce n'est pas ça. C'est dire aussi quelles sont les brèches, disons, les éléments qui permettent aussi, finalement, la création. Parce que ça, c'est sans doute très important d'exister et d'échapper à cette, un petit peu contrôle des choses par des puissances qui sont, qui sont là. Donc, je pense que c'est toutes ces dimensions-là. Vous voyez, c'est un rapport politique, mais pas politique au sens, parti ou je sais pas quoi. C'est politique au sens de la gestion de la vie de chacun, de tous les jours.
Oui. Voilà. Parce qu'en fait, je pensais là dans ma tête, par exemple, aux vendeuses dans les magasins qui supportent tous les jours... des musiques commerciales, etc., qui sont très fortes pour provoquer l'acte d'achat. Ça fait partie.
Oui, il y a une compagnie qui était très célèbre, américaine, qui s'appelle, je ne donnerai pas le nom, mais qui consistait précisément à mettre certains types de musique, qui d'ailleurs étaient complètement refaites. Ça partait de tubes, c'était refaites pour les diffuser, et donc dans des les centres commerciaux, etc. Et donc c'est tout il y a un marché aussi derrière ça. Alors il y a toujours des revers de médaille, mais imaginons qu'il y ait dans la ville diffusion de la musique, vous voyez, en permanence. Je sais pas si ce serait pas tout à fait tolérable. Donc parce que il faut laisser la part justement expressive qui vient des usages publics tout à fait spontanés qui habitent la ville et donc qui font que ça existe différemment à des heures différentes du jour ou de la nuit. Et c'est ça aussi qui est important, c'est cette dimension variable qui est aussi une espèce de trace d'une certaine démocratie, quoi. Bon, là, je vais peut-être un peu loin, mais bon, c'est peut-être aussi ça. Voilà.
Non, mais c'est fait pour ça. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes plutôt au niveau de la recherche fondamentale ou appliquée ou
fondamentale. Moi, je sais pas. Vous entendez quoi par fondamentale appliquée. Moi, je dirais qu'on est à la fois sur la recherche. D'outils ce qu'on appelle comment on produit des connaissances, quoi, comment on les fait, comment on les fabrique, je pense que c'est relativement fondamental, oui. Et puis en même temps, de plus en plus aujourd'hui, on nous dit mais à quoi ça sert? Bon, alors il y a des gens qui par exemple pourraient dire l'art, à quoi ça sert, hein, c'est vrai. Précisément, est-ce qu'il faut vraiment que ça serve à quelque chose, mais C'est comme ça qu'on découvre aussi des voies d'action, d'autres perspectives, etc. Voilà, ça fait partie d'un, je dirais, d'une vie productive, créative. Alors, voilà, je pense qu'il faut prolonger ça et pas vivre sous des sortes de directives qui seraient définitives. Et donc, entre l'appliquer... Alors, l'appliquer, vous voyez, quand tout à l'heure, je parlais de ça peut s'appliquer dans quoi? Dans différents domaines. Ça peut être du point de vue pédagogique, pour apprendre les choses d'une manière différente. Quand je parlais de ce qui c'est, de ce qui sont, etc. Voilà, c'est une manière de prendre les choses différemment. Ça peut être aussi dans les modes de décision. Ça peut être aussi dans le type de production. Alors, évidemment, ça m'intéresse en particulier, architectural, spatial, urbaine, etc., ou design, ou paysage. Ça peut être donc dans beaucoup de domaines, à des stades différents d'élaboration. Et là, on est, oui, on est dans l'appliqué. Mais moi, je ne le séparerais pas fondamentalement. Enfin, évidemment, ce n'est pas les mêmes endroits, pas les mêmes gens auxquels vous parlez, si vous êtes du côté, comme vous dites, du fondamental, ou si vous êtes du côté de l'action, hein, pour dire les choses comme ça. Bon, alors on peut essayer justement de voyager de l'un à l'autre. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est pas possible. Bon, voilà, nous, du point de vue de, en tout cas dans l'architecture, on est obligé aussi de dire ce que ça peut amener à faire. Parce que ce qu'on fait, ce qu'on fabrique et ce qu'on fait, mais aussi ça peut être un politique ou ça peut être autre chose, hein, c'est quand même ça aussi qui marque les choses, hein. Donc y a aussi et puis il y a le domaine des idées, et les idées elles sont aussi passionnantes et très importantes, donc on est
un langage qui peut être très compliqué aussi,
oui c'est vrai, oui, il faut traduire. Oui, tout à fait. On a parfois des débats au Cresson assez... ça vole dans tous les sens.
C'est
aussi une manière d'être et d'explorer. Il y a des nécessités théoriques derrière qui sont importantes. Par exemple, qui travaillent sur les ambiances, les atmosphères, pourquoi c'est une notion aujourd'hui dont on se saisit, qu'est-ce que ça signifie, etc. Moi je suis totalement impliqué là-dedans aussi, quoi. Vous voyez,
c'est... Justement, je me demandais, est-ce qu'on pourrait juste dire un petit peu plus sur les 5 jours où on va faire de la théorie complémentaire à la construction de la pièce d'écoute, si on veut dire quelques petits mots.
Alors, l'idée, oui, c'est de... Voilà, donc moi, cette année, comme je voulais laisser de la place à cette année, à la, un peu plus justement à l'expérimentation, à la fabrication de quelque chose, c'est-à-dire d'apprendre par le faire aussi, c'est en faisant, c'est important. Donc, il y aura quatre sessions plateau radio, au lieu d'avoir des cours d'une heure ou deux heures de quelqu'un qui parle tout seul, l'idée c'est d'avoir des thématiques. Alors on aura 4 moments un petit peu comme ça qui vont sédimenter avec des intervenants différents sur des thèmes. Alors le premier thème, évidemment, ça va être, on abordera la question de qu'est-ce que c'est qu'un espace sonore, tout simplement.
C'est vrai qu'on l'emploie, mais peut-être...
Alors, il y a l'acousticien, l'architecte, l'artiste, chacun va essayer de montrer, et puis on va discuter de qu'est-ce qu'on en fait, comment ça se conçoit ou pas. Alors là, la première thématique, c'est un acousticien, Nicolas Rémy, qui fait partie du laboratoire, Théo Marchal, moi-même, et puis Léonard Bach, entre autres. La deuxième session, elle sera plutôt autour de... le débat portera plutôt sur comment, en quête de son, comment on fait comment on analyse un lieu, mais aussi comment on écoute les gens qui en parlent, quand ils parlent de leur environnement sonore, qu'est-ce qu'on en tire, etc. Alors c'est une table ronde, ou disons un plateau radio, hein, dont on fera des podcasts, justement. L'idée, c'est d'avoir une trace de ça. Voilà. Et il y aura plusieurs intervenants autour de Théa Manola, qui enseigne à l'école d'architecture de Grenoble, Jean-Paul Thibault, qui est sociologue et qui est de longue date au laboratoire Cresson. Je n'oublie Laure Braillère et puis Sylvie Laroche qui sont architectes urbanistes plutôt. Voilà, et là l'enjeu ce sera plutôt de montrer comment faire remonter quand on fait des enquêtes situées in situ sur le terrain, hein, parce qu'il faut s'intéresser aux choses qui sont sous nos mains là. Qu'est-ce qu'on apprend, comment on le représente, comment on le restitue. Quelles sont les difficultés, qu'est-ce que ça dit, alors que ce soit en termes d'effet sonore, en termes de vécu, en termes de, voilà, d'appréciation. Donc ça, c'est un petit peu la deuxième table ronde. La troisième, bah, c'est sous l'angle de la conférence de David Howes, qui est donc anthropologue des sens, et qui fera une conférence, et il y aura un débat ensuite, évidemment, avec des questions. Donc ce sera le troisième moment. Tout ça est entrecoupé donc de pratiques, hein. On va aller avec les étudiants, on va manipuler des sons, on va essayer de tester des différentes configurations, etc., etc. Et réfléchir déjà à comment on va concevoir et installer notre fameuse dispositif dans la galerie d'exposition de l'école d'architecture de Grenoble, qui fait à peu près 80-90 mètres carrés, voilà. Et puis, la dernière session, ce sera justement la discussion dans l'objet lui-même, puisque les étudiants présenteront un petit peu les intentions, et puis on discutera là, alors en bougeant, en testant, etc. Voilà. Donc en fait, il y a quatre moments, si vous voulez, d'échange un peu comme ça, qui vont durer pour chacun 2 heures maximum. Où on est plutôt dans l'échange voilà, de paroles, on va dire, de transmission, d'idées et de discussion. Et surtout pour que les étudiants qui sont là sont aussi amenés à être actifs, et à discuter, à poser leurs idées par rapport à celles qui ont été exposées par ceux qui travaillent là-dessus depuis un certain temps. Voilà. Et à l'issue de ça, eh bien, on boira un pot.
Bien évidemment, comme tout mon programme.
Voilà, comme tout mon programme. Et puis, voilà, les podcasts restitueront un petit peu les éléments oraux. Et on a aussi pour projet de faire une petite plaquette, parce que souvent, on oublie les expérimentations. Après, on oublie ce que ça a été, de faire une plaquette restitutive de toute cette histoire. Avec les matériaux qu'on aura récoltés au cours des 5 jours. Voilà. Vous voyez, ça va être intense.
Oui. Mais est-ce que la pièce d'écoute restera
Oui, elle restera 15 jours en place, avec les appareillages qui vont diffuser les sons qu'on aura installés. Donc, c'est 15 jours. Dans la galerie d'exposition de l'école d'architecture.
Oui, voilà. Parce que vous avez la chance d'avoir une super galerie pour exposer les travaux des étudiants et autres.
Oui, on a une super école, en fait, qui est très bien pour... parce qu'il y a beaucoup d'espaces de circulation qui sont pas mal. Et cet espace-là est assez vide, surprenant, très réverbérant. Enfin bref, il y a de quoi faire. Et j'espère qu'on surprendra, en tout cas... l'installation qu'on fera. J'espère aussi que ça intéresse aussi des étudiants du campus qui ont peut-être un intérêt pour le son, que ce soit dans tel ou tel domaine. Voilà.
Ben oui, bien sûr. J'espère aussi que les étudiants vont bouger de leur petit campus de Saint-Martin-d'Hers.
Ah oui, c'est vrai qu'on est pas...
Oui, pour information, pour ceux qui nous écoutent, l'école d'architecture de Grenoble se situe à la Villeneuve de Grenoble, à côté donc de Grand Place, pas très loin en tout cas.
Ah oui, c'est vraiment, oui, c'est la station de tram Grand Place, en fait, pour aller à l'école d'architecture. Voilà, s'il y en a qui veulent écouter un peu, je dis toujours... qui veulent aller sur Internet, il y a un site qui s'appelle cartophonie.fr.
Oui, il est super.
Et Carto, merci. Alors, à mon avis, j'aime bien inventer des mots. Cartophonie, parce qu'on dit encore sound maps en anglais, mais pourquoi, mon Dieu, une cartographie, c'est une cartophonie cette fois. Donc, en fait, il y a actuellement, je crois, presque 1000, je crois, on approche 1000 fragments sonores enregistrés depuis 40 ans. Vous pouvez entendre la place Saint-André quand elle était encore circulée à Grenoble. Et vous entendez passer une de chevaux. C'est un document d'archives. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir l'évolution de la ville à travers les sons, pas seulement à travers les images. Mais voilà. Et sur ce site qui a une vocation mondiale, vous pouvez aller en Inde, en Chine, ou je sais pas, en Colombie, entendre. Voilà. La distinction avec les sound maps habituels, c'est qu'on ne livre pas seulement juste le son comme ça, brut. Il y a tout un tas d'éléments, alors des photos, des commentaires, ou même des mesures, hein, parce que ça se mesure le son parfois, pour essayer de comparer. L'idée de ce cartophonie, c'est d'avoir, de dire ben voilà les effets sonores, voilà comment ça se passe. On peut en entendre ici, comme ça, là, autrement. Voilà.
Et vous avez aussi quand même été un peu les précurseurs, quand même.
De quoi ?
De la cartophonie.
Ah, la cartophonie, oui. Vous savez, en fait, moi, j'avais travaillé sur la ville nouvelle de l'île d'Abo, sur le son. Qu'est-ce que c'est que l'identité sonore de l'île d'Abo ? Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, on va faire une carte, en fait, puisque c'est le début des GPS et on pouvait géolocaliser chaque point qu'on enregistrait. Le situer sur un fournisseur de cartes que je ne citerai pas et qui nous permet d'écouter finalement ce lieu-là au moment où il a été enregistré ou enquêté, parce qu'il y a eu des enquêtes, etc. Voilà. Et je me suis dit, cartophonie, ça peut correspondre à l'idée que voilà, c'est une carte, mais qui utilise le son comme outil. Voilà. Et du coup, dessus, on peut trouver des lieux ordinaires ou parfois des installations sonores. Par exemple, il y en a une, là, moi, j'ai mis, qui s'appelle Les Voix dans l'eau, qui est une installation sonore à Venise lors de la Biennale en 2012. Voilà, c'est un son de voix mélangé à de l'eau. C'est assez surprenant. C'est très beau dans un jardin. Voilà.
Et je vous remercie, Grégoire, d'avoir été à nos côtés.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Je vous en prie. On vous invite tous, vous curieux, professionnels du son ou pas, artistes, chercheurs, à vous inscrire donc à cette formation qui aura lieu du 27 au 31 janvier à l'école d'architecture, au sein du laboratoire Cresson. Et pour ça, vous pouvez aller sur la page internet du laboratoire Cresson et puis vous inscrire avant le 5 janvier, voire jusqu'au 10 même. Voilà.
Et merci à Lola, à la technique, qui a dû composer avec notre magnifique, mais vieux phoneur. Et donc, bravo à elle et bravo à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Allez.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.